Sur Moment 3. Nous sommes au Canada pour parler d'un problème réel, 2 millions de dollars américains. C'est le montant que réclame l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental à la minière de Bakwanga, mise en cible. Cela à l'issue d'une enquête menée dans le cadre de l'opération d'identification des exploitants miniers œuvrant dans la province. Il faut savoir que, d'après les députés provinciaux du Kasaï occidental, la MIBA exploite des centaines de kilomètres carrés de concessions minières dans le Kasaï occidental, mais cependant, elle ne paye plus depuis l'année 2006 les droits d'exploitation à la province. Nous en parlons justement avec des personnes cibles. Nous aurons tout à l'heure des invités qui sont là pour répondre justement à toutes vos préoccupations, raison pour laquelle nous vous associons à réagir au 081-070-2050. Mais d'abord, le point avec vous, Marie-Chantal. Alors, première question, Marie-Chantal, comment est-ce que l'Assemblée provinciale en est arrivée à réclamer ce montant à la MIBA?
Tout est parti par un constat des députés provinciaux qui avaient remarqué que la minière de Bakwanga possédait des centaines de kilomètres de carrés miniers au Kasaï occidental. Il paraît même que la superficie de ces carrés miniers est plus grande que celle des carrés miniers qu'elle possède au Kasaï oriental. Et pourtant, après des enquêtes, ils ont réalisé que les droits superficiels ne figuraient pas dans le budget provincial. Et moins encore, la MIBA ne menait pas des actions sociales au Kasaï occidental comme c'est le cas au Kasaï oriental. Ainsi, la commission chargée de l'économie et des finances de l'Assemblée provinciale, pour avoir le cœur net, a effectué une première mission en Bujima et au Kasaï oriental, puis au ministère des Mines à Kinshasa. Et là, la commission a découvert qu'il n'y avait pas seulement la MIBA qui ne payait pas ses redevances à la province, mais plusieurs exploitants miniers sur plus de 550 carrés miniers. Un manque à gagner énorme pour la province, selon les dires d'Omer Mijimbu, qui est le président de l'Assemblée provinciale. C'est ainsi que des missions parlementaires ont été initiées dans quelques territoires de la province, notamment à Lebo, Demba, Lizakikapa, pour identifier ces exploitants, les localiser ces carrés miniers et vérifier comment ils payaient leurs redevances. Omer Mijimbu, qui a été interviewé avant la mission de Mbujimaï, élevé à plus d'un million et demi, voire 2 millions, le manque à gagner. Mais maintenant, avec cette mission des députés provinciaux Mbujimaï, cela peut arriver à 3 millions sur l'ensemble de tous ces exploitants miniers qui ne payent pas leurs redevances. Écoutons Omer Mijimbu qui a été interviewé avant la mission de Mbujimaï.
Nous avons décidé donc d'envoyer les gens là-bas pour identifier les localités où sont situés ces carrés miniers, rencontrer les gens qui administrent ces carrés miniers, ensuite vérifier avec eux comment ils s'acquittent des droits superficiels vis-à-vis de la province. Pour que quand le gouvernement viendra nous proposer le budget 2009, qu'il y ait une part importante alimentée par les droits superficiels pour que les carrés puissent vivre de ces ressources. Dans le budget actuel, les carrés miniers n'ont pas apporté. D'après nos estimations, si les carrés miniers amenaient leur contribution dans notre budget, nous aurons supplément de plus de 1 500 000 $, pas même 2 millions de dollars, que les carrés miniers peuvent nous apporter.
Alors, pour revenir au problème de redevance, que doit la MIBA? Quels sont les mécanismes mis en place pour percevoir aussi ce montant?
Hier, j'ai pu joindre Daniel Mbaï, chef de la délégation des députés provinciaux en Mbujimaï et aussi président de la commission économico-financière de l'Assemblée provinciale. Il m'a révélé que ce montant pourrait revenir à la province par la rétrocession et aussi que la MIBA a reconnu que les protocoles signés avec certaines entreprises basées au Kasaï occidental ne sont pas respectés. C'est ce qui justifie le désordre qui existe dans les droits superficiels de la province. À ce sujet, Daniel Mbaï nous donnera plus de précisions comme il sera l'un de nos invités. De notre côté, il faut signaler que l'Assemblée provinciale a voté un édit, donc une loi sur proposition de l'exécutif provincial qui porte création d'une brigade de mobilisation des recettes. Cette brigade a pour rôle de percevoir l'ensemble des taxes provinciales. Donc, par exemple, pour les droits superficiels dans les années à venir, l'Assemblée provinciale va mettre à la disposition de l'exécutif des données pour le recouvrement de ces taxes. Selon Bachiye Lukuka, ministre provincial de l'économie et finances, il manque encore certains documents pour que cette brigade démarre ses actions. On écoute Bachiye Lukuka, ministre provincial de l'économie et finances.
L'exécutif provincial se débat pour mettre un mécanisme qui peut permettre la réalisation de ce recette de la province. Puisque jusqu'à présent, il y a eu le paralysme des documents de perception, et que si je pouvais éviter toutes ces difficultés, il faudra chercher un nouveau mécanisme qui permettra la réalisation de perception de ces recettes de la province du Cap-Occidental.
Alors, pouvez-vous lire sur la question, Marie-Chantal, est-ce que vous avez pu recueillir le point de vue de la population à ce sujet?
Oui, en effet, vraiment, la population salue l'action de l'Assemblée provinciale, mais parmi elles, il y a certaines personnes qui se posent la question sur la gestion de ces fonds. Écoutons les propos que j'ai recueillis ce matin dans les rues de Kananga.
To access the family professor can see Jimmy, the men, one, two, 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 three, come for this, to belong to the lab, there's nothing else. But I think it's a good thing, problem, yeah, by the region, but to the now, wow. Oh, my God, I'm going to call me by the entre eux. I think it's a problem.
Why, no one, Jim, now, and by Ben, so much more, much more, much more, much more, much more, much more, much kwenza promesa ijibuba tulaye to bijia muji bijonso on va voir juste quand
si la MIBA payait parfois plus de 2 millions à la province du Kasaï occidental, ça peut nous aider dans les infrastructures routières, tout ça, l'électricité, tout ça.
Assemblée provinciale, tu dis moi ça qui chim si tu t'en rends compte pas dit mais en un bon an et à manique entre bon bon kaya ba député bon c'est bien mais il va pas couper quand il va bon avant bon manya ba ko ba bon manya et puis moudi mako toenza il quand moudi mo ou quand mo collectif exécutif provincial bon ba weza ni population à savoir nao kabis c'est sûr tu n'en ne ya.
Voilà, on aura certainement d'autres réactions tout à l'heure avec vous, auditeurs de Radio Capi, vous qui nous suivez, et retenez qu'on va recevoir dans un instant nos invités qui sont là justement pour nous apporter quelques solutions. Marie-Chantal, on va s'arrêter là, à moins que vous ayez un autre élément à ajouter.
Non, il n'y a pas d'autre élément. On va recevoir notre invité, peut-être qu'il pourra nous donner plus d'éclairage, puisque nous aussi on attend beaucoup par rapport à cette mission du Kasaï oriental, par rapport aux 2 millions qui pourraient être versés à la province.
Merci beaucoup Marie-Chantal Lomba, à la prochaine.
Merci.
Pour écouter aujourd'hui la musique d'hier, rafraîchir nos oreilles de l'histoire de la musique, revivre des grands moments de la chanson congolaise, retrouver nos héros et chanter avec eux, ouvrons le bal avec la musique des années 50, 60, 70 et 80. Tous les dimanches, de 19h à minuit dans le Kinshasa et de 20h à 1h heure de l'Est. Tous les lundis et mardis de 21h à minuit dans le Kinshasa et de 22h à 1h heure de l'Est. Au Capi Rétro sur Radio Capi avec DJ Daddy, changez de rythme.
Merci à tous ceux-là qui nous suivent à travers le pays Mamo de la RDC. Sachez que nous sommes aujourd'hui à Kananga pour parler des 2 millions de dollars américains. Vous savez que c'est le montant que réclame justement l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental à la minière de Bakwanga Mibo en sigle. Et cette Assemblée a même effectué une visite aujourd'hui à Mbujimayi. Comment cela a évolué? Nous avons justement Daniel Mbaï, député provincial et président de la Commission économique et financière de l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental en ligne. Daniel Mbaï, bonjour.
Bonjour, madame.
Oui, nous savons que vous avez à réclamer 2 millions de dollars américains à la MIBA et même que vous avez effectué des enquêtes qui vous ont amené justement à Mbujimayi. Comment ces enquêtes ont-elles évolué sur place à Mbujimayi, M. Daniel Mbaï?
Oui, à Mbujimayi, nous sommes venus, ce n'est plus une enquête comme telle, mais c'est l'échange avec les autorités de la MIBA par rapport au nombre de données que nous avions reçues. Parce que cette mission est la seconde. C'est la première mission que nous avons menée à Mbujimayi. Cette fois-là, on avait eu certaines données et aussi nous avons échangé avec les autorités. On avait présenté le nombre de difficultés. Il fallait aller à Kinshasa pour les étoffer et avoir d'autres informations là-dessus. Nous sommes allés au cadastre minier, nous sommes passés par la DGRAD, nous avons recueilli certains éléments. Ce sont ces éléments-là qui ont fait que nous puissions rentrer à Kananga au sein de l'Assemblée provinciale. Nous avons débattu, nous avons trouvé qu'il fallait dispatcher le travail, c'est-à-dire il y en a une partie qui concerne les entreprises qui ne, les entreprises autonomes qui ne sont pas MIBA et qui sont parsemées à l'intérieur de la province. Et notre mission devait aussi venir maintenant à la NIBA spécialement par rapport aux données que nous avons eues. C'est la raison pour laquelle nous nous trouvons ici, pour prendre langue avec les autorités par rapport aux données recueillies sur le terrain à Kinshasa et ici sur place.
La NIBA devrait payer 2 millions de dollars américains, mais par rapport aux autres exploitants miniers, on a parlé de plus de 550 carrés miniers qui sont exploités. Ça veut dire que le montant qui devrait être versé à la province du Kasaï oriental dépasse les 2 millions de dollars américains.
Oui, voilà le problème. C'est, si nous parlons de la NIBA, parce que le gros c'est la NIBA. La NIBA occupe la superficie de, je crois, de 78 km² au Kasaï occidental. La NIBA avait signé ou a signé des amodiations avec certaines entreprises que la province ne connaissait pas. Parce que toutes ces entreprises exploitent au Kasaï occidental, mais nous ne connaissons pas quelle entreprise. C'est la raison pour laquelle le gros était occupé par la NIBA. Nous sommes venus à la NIBA en garantie pour demander les droits superficiels. Comment ça se passe? C'est-à-dire que la NIBA, avec les différentes entreprises qui ont signé un protocole d'accord avec elle, reçoivent les notes de débit du cadastre minier. Le cadastre minier envoie ces notes de débit à la NIBA. Parce que les différentes entreprises qui ont signé les amodiations avec la NIBA ne sont pas encore connues légalement au niveau du cadastre minier. Alors, par ce fait-là, c'est la NIBA qui fait la taxation à la NIBA. La NIBA, en garantie, va vers ses différents partenaires pour pouvoir leur réclamer les droits de l'État. Et ces droits-là sont payés directement au compte du Trésor public, c'est-à-dire ça passe par la DGRAD. Et la province reçoit cela par la rétorsion automatique. Alors, comme rien n'était connu, et on se demandait que cette rétrocession devait venir comment, parce qu'on ne connaît pas quelle est la base même de la rétrocession.
Mmh.
C'est la raison pour laquelle nous sommes venus à la NIBA pour connaître d'abord qui paye et qui ne paye pas, qui est chez nous. C'est alors que nous avons dressé une liste, et que nous avons reçu du cadastre minier, parce que le cadastre minier nous avait donné en dehors de la NIBA à d'autres entreprises. Mais ma commission ou ma mission que j'ai amenée ici, c'était que ça ne concernait que la NIBA seule.
Oui.
Et avec la NIBA, nous avons discuté depuis que nous sommes là. Nous avons réussi à enlever la commission technique ou les collaborateurs du PAD d'abord, et ensuite on a vu le PAD hier. Nous avons bavardé autour de la question. Et tous sont mis d'accord sur la chose pour dire que non. Et effectivement, le Kasaï occidental devait rentrer dans ses droits. C'est-à-dire quoi? De nombreuses certaines entreprises qui ont déjà reçu des passations de titres, donc qui sont des payeurs autonomes,
oui,
doivent payer directement. Et d'autres entreprises aussi, qui sont encore sur la bannière de la NIBA, c'est-à-dire qui n'ont pas encore reçu le titre comme tel, dont la session légale n'est pas encore faite, qui doivent payer directement, mais à travers la NIBA.
Oui, alors la NIBA, est-ce qu'elle a accepté de payer ces 2 millions de dollars américains pour commencer?
Voilà, non, j'explique. Donc quand nous avons fait la discussion, nous avons commencé en 2007 et 2008. Parce que 2006, il y a un problème avec la NIBA. Nous avons trouvé que 2006, il y avait ce qu'on a appelé le cas de force majeure. C'est un cas de force majeure. 2006 est tombé parce qu'il y avait des raisons qui ont fait que 2006 est tombé, qu'on a appelé cas de force majeure. Mais quand nous avons fait le calcul de 2007 à 2008, nous sommes arrivés à 20 973 597.13. Et sur ces 20 millions, ici, c'est qu'on verse au niveau du Trésor public.
Mmh.
On a pris les 15%. 15% automatique, ça va faire une chose de 3 146 039,6. Donc, c'est ce que la province doit recevoir. Et nous devons...
Donc, ce n'est pas 2 millions, mais plus de 3 millions que la province orientale devrait recevoir de la NIBA.
Le Kasaï occidental, oui. La NIBA sait que donc pour les deux années, 20 973 597.13.
Oui. Nous avons justement Christine Tousset, qui est ADGA de la NIBA, qui vous suit. Elle est là justement pour nous apporter un peu plus de lumière sur cette question. Christine Tousset, bonjour. Allô, Christine Tousset, vous êtes en ligne? Bonjour.
Oui, bonjour, oui, je suis en ligne.
Merci d'être là pour nous éclairer sur cette question qui concerne en fait la NIBA. Nous avons appris que la NIBA devrait verser plus de 3 millions de dollars américains à la province du Kasaï occidental. Est-ce que vous confirmez ces affirmations?
Bon, écoutez, je ne confirme pas. Il y a ceci, il y a que la NIBA détient des droits miniers, recherche et exploitation sur une étendue de plus ou moins 78 000 km² qui s'étendent, si vous voulez, de la province du Kasaï oriental jusqu'au Kasaï occidental. Alors, nous, la NIBA, pour l'instant, nous sommes tenus donc de respecter la réglementation minière qui est dictée par le code minier. En ce qui concerne les droits, les paiements des droits superficiels, c'est le camis, c'est le camis qui est chargé de la perception de ces droits. Et c'est également le même camis qui, chaque année, en début d'année, établit les notes de débit, les transmet à l'ABIBA. Et comme actuellement l'ABIBA n'a pas, le camis plutôt n'a pas encore de structure au niveau de la province, l'ABIBA paye ses droits au niveau de camis central à Kinshasa. Quant à la question de la répartition des produits des droits superficiels, cette question relève également de la compétence du CAMI.
Oui. Christine Toussaint, nous rappelons que vous êtes la DGA de l'AMIBA, mais selon nos informations, c'est depuis 2006 que l'AMIBA ne verse plus ses droits superficiels au CAMI.
Bon, ce n'est pas tout à fait exact. Ce qui est vrai, que l'entreprise traverse une crise très profonde, donc depuis quelques années, plus ou moins donc 3 ans, et qui fait en sorte que l'entreprise est dans l'incapacité d'honorer pour le moment donc les divers engagements, non seulement vis-à-vis de CAMI, mais comme vous le savez, notre exploitation minière pour l'instant se réalise dans les polygones miniers. Nous avons signé, donc, nous sommes en partenariat, si vous voulez, avec les entreprises minières internationales pour l'exploitation de réserves inexploitées, notamment dans les Kasaï occidentales. Ce sont ces partenaires, donc, qui payent les droits superficiels au CAMI à la place de la MIBA.
Oui, mais selon toujours nos informations, ces contrats d'amodiation avec des entreprises minières internationales marchent plutôt bien. Ça pourrait peut-être constituer une bouffée d'oxygène pour l'AMIBA. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui l'AMIBA continue à traverser ou à connaître encore un état financier mitigé?
Bon, les partenariats sont encore en phase d'exploration. Donc, tous les partenariats, il n'y en a encore aucun qui est arrivé en phase donc, d'exploitation. Donc, pour l'instant, donc, tout ce qui est prévu au bénéfice de l'AMIBA, notamment les royalties, il est important sur les chiffres d'affaires. Mais on sera en mesure donc, d'en bénéficier que lorsque différents partenariats seront en phase d'exploitation.
Oui, mais ce qui est curieux, ces entreprises sont encore en phase d'exploration. Comment se fait-il qu'elles payent au CAMI encore le droit superficiel?
Mais elles doivent payer, ça c'est les codes miniers qui imposent le paiement des droits donc superficiels, donc, même pour les entreprises qui sont, en fait ce sont des droits miniers, il faut payer sur les droits des recherches et payer aussi sur les droits d'exploitation, les droits superficiels.
Mais pour vous, en tant que partenaire de ces entreprises, est-ce que vous vérifiez si réellement ces entreprises payent mensuellement, trimestriellement ou annuellement?
Ce n'est pas mensuellement, donc la taxe superficielle est payée annuellement. C'est payé une fois, il y a certains paiements qui sont passés d'ailleurs par la MIBA.
Et pour 2007, est-ce que ces entreprises ont pu régler ces comptes?
Les entreprises ont réglé les comptes, mais comme je venais de vous le dire, les entreprises ont réglé au cadastre minier. C'est le cadastre donc minier, selon la réglementation minière donc actuellement, qui perçoit ce frais.
Oui, nous avons Daniel Mbaï, qui est le député provincial et président de la commission économico-financière de l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental. Monsieur Daniel, vous avez, diligenté une commission à Kinshasa pour vérifier si réellement l'AMIBA paye ses droits superficiels comme il faut. Est-ce que, par rapport aux enquêtes que vous avez pu mener, vous avez eu à vérifier si réellement CAMI reçoit ses droits superficiels de la part des partenaires de l'AMIBA?
Non, CAMI ne reçoit pas le fait. CAMI émet les notes de débit. La DGRAD qui émet les notes de perception et normalement, et si tout va bien, que l'entreprise fait correctement au niveau de la DGRAD. Mais les choses ne se passent pas de cette manière-là. Ici, sur place, donc, parmi les entreprises qui ont signé les contrats avec l'AMIBA, je prends l'exemple de du DGI. DGI ne paye pas depuis 2 ans. Donc, depuis 2007, 2008, DGI n'a pas encore payé. Mais, cependant qu'il a signé un protocole d'accord avec l'AMIBA pour que, exploiter dans sa concession. Toutefois, dans le but de ce contrat-là, mais DGI ne paye pas. Cependant que le code minier oblige à tout quiconque se trouvant dans la RDC qui exploite, surtout qui exploite sur le temps de la RDC de payer les droits superficiels.
Oui, bon. Alors en ce moment-là, la faute n'est pas à la MIBA, mais plutôt à
non, mais si je vous dis que BG n'a pas payé, ce n'est pas. Nous voyons la MIBA parce que c'est la MIBA qui a signé le contrat avec ces gagnants. Si jamais la MIBA avait déjà passé, si jamais il y avait déjà eu la passation des titres, entre la MIBA et cette entreprise, on l'a attaqué directement. Et nous ne pouvons pas passer à cette entreprise parce que jusque-là, il n'y a pas eu session légale. C'est la MIBA en garantie qui doit payer. En dehors de cette entreprise, la MIBA elle-même a aussi d'autres concessions, ce qu'elle exploite. Oui, on n'a pas payé.
Oui, mais la MIBA connaît l'état financier. Mais si comme je l'ai dit tantôt, de toutes ces difficultés, ce n'est pas un secret. La MIBA n'a pas, ne peut pas être en même de pouvoir régler ses comptes par rapport à sa situation.
Oui, mais là, nous, nous sommes des élus du peuple. Nous avons un mandat. Nous allons dire au peuple, non, écoutez, nous n'avons pas travaillé parce que la MIBA n'avait pas payé. On va nous écouter. C'est comme quelqu'un qui est à sa maison. Un locataire, il est là, il est ici soir. Autant normal ou pas, mais il doit payer.
Alors là, votre démarche n'a servi à rien. Parce que
tout
se passe en compte tenu des problèmes financiers que rencontre la MIBA. Elle ne payera jamais ses 3 millions à la province du Kasaï occidental.
Non. Madame, je vous dis que la MIBA doit me payer dans ce sens ici. D'abord, l'entreprise qui a signé la modération avec la MIBA n'est pas en faillite. Vous savez, elle est là. Elle n'a pas payé.
Monsieur Daniel, une curiosité. La loi sur la rétrocession a été votée au Parlement, mais sur le terrain, elle n'est pas encore d'application. Alors là, on a comme l'impression, on assiste à une précipitation de la part de l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental.
Non. Permettez que je vous explique. La loi sur la décentralisation, dont vous parlez de 40% du vivissement, n'est pas encore d'application, mais il y a la rétrocession automatique des régimes financiers qui existe depuis très longtemps. C'est dans cet aspect-là où nous intervenons. Il y a la rétrocession automatique des revenus financiers.
Oui, mais au niveau de la MIBA, on l'a reconnu. Mais la MIBA paye, disons, les partenaires payent au niveau de CAMI, et c'est à CAMI maintenant de faire cette rétrocession automatique.
Voilà la démarche, oui. Ce que nous faisons ici, c'est pour permettre même à ceux au niveau du trésor public, au niveau de la DGRAC, que l'on puisse voir que dans le sens même de la rétrocession en question. On le rétrocède sur base de quoi? Parce que la rétrocession que l'on fait, on le fait. Nous ne connaissons pas le base de calcul. C'est ça le problème. Mais cette démarche ici, ça va nous permettre, nous, en tant qu'élus du peuple, de pouvoir réunir toutes les données possibles. Et aussi, ça va nous permettre de voir suivre même au niveau du revenu financier pour faire les concepts de compte par rapport à la production.
Oui.
Donc, c'est ça la démarche de l'Assemblée provinciale.
Christine Toussaint, vous êtes toujours avec nous. Vous avez suivi les explications de Daniel Mbaye. En tant qu'ADGA de la MIBA, est-ce que réellement vous avez signé des contrats avec certaines entreprises qui peuvent vous permettre maintenant de payer ce que vous devez à la province occidentale?
Bon, écoutez, là je suis, enfin nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Hein. Moi je n'ai cessé de vous dire que pour l'instant nous sommes en train d'appliquer la réglementation minière. Et la réglementation minière n'astreint pas la MIBA à payer à la province du Kasaï. Donc nous devons payer le CAMI via la DGRAD, donc jusqu'à preuve de contraire. Donc toutes les questions qui relèvent des rétrocessions ne sont pas de la compétence de la MIBA. C'est vrai, j'ai suivi des partenaires de la MIBA. Comme je vous disais, nous avons eu donc une grande concession sur un pendu de 70 000 km². Donc les conseils d'administration de la MIBA sont avaient donc retenu l'option de céder certaines concessions minières à un jeune vaincu. Ce qui a été fait, évidemment, c'est vrai que l'honorable a relevé, il y a les partenaires DGI qui ne s'est pas acquitté donc des droits de superficiaire donc durant 2 ans. La MIBA n'est pas restée donc bras croisés, donc nous avons entamé déjà la procédure donc de résiliation donc de la convention qui nous lie à cette appartenance.
Oui, s'il vous plaît. Alors parlons de la production de la MIBA. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ce que produit la MIBA? Parce que tout ça n'est pas très clair. On parle d'une entreprise en faillite, mais la MIBA arrive quand même à produire. On peut avoir une idée sur la production de la MIBA, Christine Toussaint?
Bon, oui, on peut avoir une idée. Donc, en période normale, quand tout va bien, quand la MIBA dispose d'un outil de production donc approprié, la MIBA produit 600 000 carats par mois.
Ce qui fait combien?
Oui, 600 000 par mois. Actuellement, nous sommes en train de traverser une crise, comme je vous ai dit. Donc, l'outil de production de l'amiba est complètement obsolète, donc il nécessite une réalisation des fonds en comble et un renouvellement. Et ça, ça exige donc des fonds très importants, de l'ordre de 140 millions de dollars. Donc, pour l'instant, nous sommes donc en négociation avec des partenaires donc financiers pour mobiliser les financements indispensables pour la relance. Mais en attendant, avec les moyens de bord, avec l'appui du gouvernement, notamment grâce aux prêts aux banques qui avaient été mises à notre disposition, donc nous sommes en train donc de réaliser donc une production minimum qui est de plus ou moins 100 000 carats de mois.
Oui, madame, juste encore une autre curiosité, parce que là, on revient sur cette joint venture, le contrat de la modération avec les partenaires, mais on a comme l'impression que l'AMIBA n'a pas un œil regardant dans tout ce qui s'est fait comme opération au niveau de partenariat. Parce que là, si vous pouvez peut-être nous faire une idée sur la dernière passation des titres, vous avez dit DGI, bon, ça n'est pas quitté, mais les autres, quel est-il des autres partenaires? Est-ce qu'effectivement ils payent? Si vous pouvez nous faire une idée sur un titre que vous avez en tête, par exemple.
Bien sûr, il paye, et puis ce n'est pas vrai de dire que l'AMIBA n'a pas un œil dans le regardant. Donc, dans tous les partenariats, donc, nous avons créé des sociétés hein, dans lesquelles l'AMIBA a 49% et dans lesquelles c'est l'AMIBA qui assure la présidence de tous les conseils d'administration et l'AMIBA encore un poste donc, des DGR au niveau de la gestion courante. Donc, nous avons un œil. Et je vous dirais qu'il y a eu des problèmes avec le CIAI, mais c'est tous les autres de dire que nous avons un partenariat qui est avec des BIRS qui a obtenu donc une des concessions, mais des BIRS payent, il n'y a pas que des BIRS, il y a DHP, Bilicom qui paye, il y a DCM qui paye, bon, la liste donc est longue.
Donc si je comprends bien, l'AMIBA respecte bien la réglementation du code minier.
Nous respectons la réglementation. Ce que je voudrais vous dire, c'est que nous sommes dans une situation de crise. Donc, je me répète que pour l'instant, nous ne générons pas. Donc, nos recettes sont effondrées, ont baissé de plus de 90%. Nous ne sommes pas en mesure de faire face à toutes nos obligations.
Donc, la province.
Je veux dire que l'AMIBA, pendant les périodes difficiles, a eu à intervenir donc, à faveur donc, de l'État. Nous avons contribué au fonctionnement du budget de l'État. Alors, actuellement que nous sommes en difficulté, nous avons sollicité un moratoire au paiement des droits.
Oui, mais Christine, tous ces 600 000 carats par mois, ce n'est pas peu de choses.
Comment?
Vous avez parlé de 600 000 carats par mois.
En période normale, actuellement, nous sommes au niveau de plus ou moins 100 000.
Ah, ça c'est une autre question. Oui, c'est une baisse, mais vous avez des partenaires, vous avez des grandes entreprises qui vous aident à aller de l'avant.
Les partenaires que vous ai dit que les partenariats sont en phase d'exploration, de recherche, on n'a pas encore commencé l'exploitation proprement dite.
Mmh. Mmh. Et si jamais ça évolue bien, ça pourrait relancer les activités au niveau de l'AMIBA, hein?
Les activités de l'AMIBA, nous sommes en train de déployer des efforts, donc pour l'instant c'est un problème de financement, on a identifié toutes les actions qui doivent être menées pour aller de l'avant, donc actuellement, comme je venais de vous le dire, nous sommes assez avancés donc, dans les démarches de recherche de financement qui pourront aboutir d'ici là, et ça va nous permettre de restaurer notre capacité de production.
Oui, alors la phase exploratoire prendra 2 mois, 3 mois?
Non, les phases d'exploration prennent en général 5 ans, entre 2 et 5 ans.
Christine Toussaint, en tout cas, nous vous remercions beaucoup d'avoir été les nôtres en tant que ADGA de l'AMIBA. Merci, hein, et à la prochaine.
Ok, merci à vous autant, à la prochaine.
Daniel Mbaye, je pense que les explications de Christine Toussaint vous ont satisfait.
Oui, mais justement, ce qu'elle a dit, c'est ce que je voulais dire aussi. Toutefois, il y a des entreprises minières qui payent, comme elle a dit, c'est effectivement BFM, BHP, Bilicom, tout ça. Nous avons, dans notre entretien avec les autorités de l'AMIBA, nous avons demandé d'avoir la liste de ceux qui payent et ceux qui ne payent pas. Cela va nous permettre de voir dans l'enveloppe totale la partie qui est déjà payée, comment, qu'est-ce qu'on peut chercher à recouvrer. Et la partie non payée, nous allons prendre des dispositions justement pour pouvoir aussi chercher à inquiéter ou à demander à ce que ce dernier paye. S'il ne paye pas, c'est l'ANIBA seul qui connaît ce qu'il va faire, parce que jusque-là, il n'y a pas eu parce que ce sont des titres qui ont besoin de l'ANIBA. C'est ça la démarche.
Affaire à suivre prochainement avec vous. On va voir comment tout ça va évoluer avec l'ANIBA. On va s'arrêter là avec vous, hein, en tant que député provincial et président de la commission économico-financière de l'Assemblée provinciale du Kassai occidental. Daniel Mbaye, nous vous remercions d'avoir été les nôtres et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.